Le destroyer Abu Mahdi al-Muhandes a rejoint la marine du corps des gardiens de la révolution islamique. Le Hezbollah libanais frappe une base de contrôle aérien israélienne avec des dizaines de missiles en guise de première riposte à l'assassinat du chef politique du Hamas, Saleh al-Arouri. Et en RDC, 82 candidats aux élections législatives invalidés pour fraude. C'était les principaux titres. En voici le journal. Une cérémonie a eu lieu samedi 6 janvier dans la ville portuaire de Bandar Abbas à l'occasion de l'entrée du navire Abu Mahdi al-Muhandis et de 100 vedettes rapides lance-missiles dans la marine du corps des gardiens de la révolution islamique en présence du commandant en chef du CGRI, le général de division Hossein Salami. Le contre-amiral Ali Reza Tangsiri, présent également à cette cérémonie, a souligné que cette annexion s'inscrit dans la lignée de 11 dernières annexions et dans le cadre des efforts censés renforcer l'autorité et la puissance du pays. Ces bateaux, qui ont la capacité de lancer des missiles en même temps qu'ils se déplacent, renforceront les capacités défensives du pays dans le domaine du combat naval et conféreront du dynamisme et de la rapidité de mouvement aux navires des forces navales du CGRI dans les eaux du Golfe Persique. Le navire de patrouille de combat Abu Mahdi al-Muhandis a été conçu et produit sur la base des besoins opérationnels de la marine du CGRI par de jeunes experts iraniens en coopération avec des entreprises fondées sur la connaissance, en tirant parti de 4 moteurs marins. Ce navire, furtif, est capable de naviguer sur de longues distances avec une vitesse de plus de 37 nœuds et une grande maniabilité. Le croiseur est capable de transporter un drone vertical et de lancer des drones de combat de jour comme de nuit. Ce croiseur est équipé d'un système de détection et d'interception de lanceurs de missiles navals et des systèmes automatiques et semi-automatiques de canons de 20 mm et 30 mm pour la défense aérienne et la lutte contre des cibles hostiles. Le général Salami a déclaré, lors de la cérémonie d'intégration du croiseur Abu Mahdi al-Muhandis, des vedettes rapides et des lance-roquettes à la marine du CGRI. En tant qu'avant-garde et pionnière de la puissance de la République islamique d'Iran contre les puissances mondiales, la marine du CGRI a franchi un pas de géant dans sa puissance offensive et défensive. La marine doit être capable d'atteindre l'ennemi où qu'il se trouve et même dans des endroits éloignés, a-t-il martelé. Nous devons protéger nos lignes maritimes. C'est pourquoi il est important pour nous de fournir à la marine la portée de ses missiles et de ses navires, ainsi que la capacité de parcourir de longues distances et de poursuivre la bataille, a-t-il précisé. Le commandant en chef du CGRI a souligné que se tenir dans un rayon proche et semi-éloigné est préjudiciable à l'ennemi et qu'il doit rester à l'écart de cette zone. Notre ennemi comprend bien la logique de la force. Nous avons la volonté, la force et la stratégie. Et l'ennemi a vu une grande partie de notre force dans la défense de nos intérêts, a-t-il ponctué. Le Hezbollah libanais affirme avoir frappé une base de contrôle aérien israélienne avec des dizaines de missiles, en guise de première riposte à l'assassinat du chef politique adjoint du Hamas, Saleh al-Arouri. Les combattants de la résistance islamique ont ciblé samedi 6 janvier à 8h10, heure locale, la base de contrôle aérien de Meron avec 62 missiles de différents types, des frappes directes et confirmées, a indiqué le Hezbollah dans un communiqué. Le mouvement a décrit l'opération comme une première réponse à l'assassinat du grand dirigeant Cheikh Saleh al-Arouri et de ses frères martyrs par le régime sioniste dans la banlieue sud de Beyrouth, à Zahia. Les sirènes d'alerte ont retenti dans les villes du nord de l'entité israélienne, avertissant les habitants de l'arrivée de roquettes, ont rapporté samedi les médias. Les villes de Shtula, Abirim, Netoua, Carmiel et Safed faisaient partie des 94 colonies de la Galilée et du plateau du Golan occupées mises en alerte, ont-ils indiqué. La chaîne libanaise a rapporté vendredi que le Hezbollah libanais a affirmé avoir attaqué le site militaire israélien de Birket Risha à deux reprises consécutives à l'aide de roquettes Burkan et de frappes d'artillerie. Les attaques ont fait de nombreuses victimes. Plus tôt dans la journée, il a attaqué un repère israélien à proximité du site militaire d'Al-Dahira à l'aide de roquettes Burkan. Les médias israéliens ont rapporté que 8 à 10 roquettes avaient été tirées depuis le Liban vers la colonie israélienne dans le nord de Kiryat Shmona. Les colons rapportant qu'au moins 4 explosions ont été entendues. Les médias israéliens ont également rapporté que des missiles anti-blindés avaient été lancés depuis le Liban vers les zones situées entre Shtoula et Zarit, dans l'ouest de la Galilée. Au lendemain des opérations, les médias israéliens ont déclaré qu'un site militaire israélien avait été gravement endommagé après avoir été touché par une roquette Burkan. Ces opérations surviennent dans un contexte d'inquiétude accrue dans le nord concernant la réponse du Hezbollah à l'assassinat du numéro 2 du Hamas, Salih al-Arouri, par l'armée israélienne sur le sol libanais. La résistance islamique irakienne a annoncé samedi matin avoir attaqué les bases américaines d'Al-Tanf et d'Al-Shadadi, ont rapporté les chaînes d'information qatari et libanaises Al Jazeera et Al Mayadin. L'attaque s'inscrit dans le cadre des attaques de la résistance irakienne menées en soutien au peuple palestinien à Gaza. Vendredi, dans l'après-midi, le site d'information irakien Al-Maluma a affirmé que la base américaine d'Al-Harir, dans le nord de l'Irak, a fait une nouvelle fois l'objet d'une attaque de drone. Un drone s'est abattu, selon une source de sécurité, sur le lieu de rassemblement des forces américaines sur la base d'Al-Harir à Erbil. Il y a deux jours, la résistance islamique d'Irak a annoncé avoir lancé une attaque de drone contre une base américaine dans le sud de la Syrie. Depuis les premières semaines de l'opération Tempête d'Al-Aqsa, la résistance irakienne s'est engagée à soutenir la Palestine en menant des attaques de drones et aux missiles contre les bases américaines en Irak et en Syrie. Le nombre de ces opérations a dépassé la centaine. La résistance islamique d'Irak a attaqué des cibles israéliennes également à Eilat, surplombant la mer Rouge, ainsi que les installations gazières dans la région méditerranéenne. Le chef des affaires humanitaires des Nations Unies a vivement déploré la situation dans la bande de Gaza, qui souffre depuis près de 3 mois d'une guerre génocidaire menée par le régime d'Israël. La bande de Gaza est tout simplement devenue inhabitable. S'est alarmé vendredi 5 janvier le chef des affaires humanitaires des Nations Unies à propos du territoire palestinien dévasté par les bombardements israéliens meurtriers déclenchés par l'attaque sanglante du Hamas contre Israël le 7 octobre. 3 mois après les atroces attaques du 7 octobre, Gaza est devenu un lieu de mort et de désespoir et ses habitants font face à des menaces quotidiennes sous les yeux du monde entier, a regretté Martin Griffiths dans un communiqué. Des dizaines de milliers de personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tuées ou blessées. Les zones où les civils se sont réinstallés pour leur sécurité ont été bombardées, a-t-il encore précisé. Plus de 22 600 personnes sont mortes depuis le début des hostilités, le 7 octobre. Jeudi, le bureau des médias du gouvernement de Gaza a déclaré que le régime israélien avait largué plus de 65 000 tonnes de missiles et de bombes sur la bande de Gaza. Martin Griffiths regrette par ailleurs que les installations médicales de l'enclave soient la cible d'attaques incessantes, notant que les quelques hôpitaux restants, partiellement fonctionnels, sont submergés de cas de traumatologie manquant cruellement de fournitures et sont inondés de personnes déplacées. Les habitants de Gaza ont également confronté au niveau d'insécurité alimentaire les plus élevés jamais enregistrés. La famine approche, a-t-il averti. Le porte-parole du mouvement yéménite Ansarallah, Mohamed Abdussalam, a souligné que les yéménites ne toléreraient pas le langage de la menace. Le journal américain New York Times a annoncé dans un rapport que l'Amérique planifiait une attaque contre les bases militaires de l'armée yéménite. Suite au voyage du secrétaire d'État américain Antony Blinken en Turquie, le porte-parole d'Ansarallah a déclaré sur X « La position du Yémen en soutien à la bande de Gaza et contre les massacres perpétrés par Israël est juste et relève de la responsabilité de ses combattants. Il faut faire pression sur le régime sioniste pour l'empêcher de commettre des crimes sanglants contre les Palestiniens et mettre fin au blocus total de la bande de Gaza, a-t-il exhorté. Ce qui menace la région et les pays bordant la mer Rouge sont des exactions du régime sioniste et la militarisation de la mer à son profit, a-t-il encore averti. Suite à l'intensification des attaques du régime israélien contre la bande de Gaza, l'armée yéménite a assuré son soutien total aux Palestiniens, annonçant qu'aucun navire israélien ou bateau se dirigeant vers les territoires occupés n'a pas le droit de passer par le détroit de Bab el-Mandeb ainsi que la mer Rouge. L'armée yéménite a mené des opérations maritimes contre le régime sioniste en mer Rouge. Lors d'un conflit récent, elle a perdu plusieurs de ses forces au cours d'une intervention des avions américains. Abdussalam a souligné. Notre peuple ne menace aucun pays qui n'en attaque pas et en même temps ne tolère pas le langage de la menace. L'Amérique et ses alliés devraient renoncer à leur arrogance et savoir que toute action de force visant à nous mettre en échec est inutile. suite au martyr de plusieurs forces maritimes yéménites, le directeur du bureau du leader d'Ansarallah a déclaré lors d'une réunion avec des médias locaux qu'en visant les forces yéménites, l'Amérique s'était visée elle-même. 82 candidats aux élections législatives et provinciales du mois dernier en République démocratique du Congo ont été invalidés pour fraude, annoncé vendredi soir la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Elle les accuse de fraude, de corruption, de vandalisme du matériel électoral, d'incitation à la violence, de détention illégale de dispositifs électriques de vote le jour du scrutin pour les élections générales du 20 décembre dernier. Le CENI a invalidé l'actuel gouverneur de Kinshasa, Gentil Ngobila, et plusieurs autres personnalités membres de la coalition de l'Union sacrée qui a soutenu la candidature de Félix Tshisekedi, le président sortant, qui a été déclaré provisoirement le 31 décembre vainqueur de la présidentielle. Des irrégularités ont été signalées lors de scrutins au cours duquel les électeurs devait désigner un nouveau président, les membres de l'Assemblée nationale et des assemblées provinciales, ainsi que leurs conseillers municipaux. Le scrutin a été officiellement prolongé jusqu'au lendemain, du fait qu'un important nombre de bureaux de vote n'avaient pas pu ouvrir en raison de l'arrivée tardive du matériel de vote. Cette prolongation a été jugée contraire à la loi électorale et à la Constitution par certains candidats à la présidentielle. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. L'étrange position du gouvernement américain concernant le génocide israélien dans la bande de Gaza. Le président des États-Unis a une fois de plus rejeté les accusations de génocide contre le régime sioniste dans la bande de Gaza et soutenu la campagne militaire israélienne contre les Palestiniens. L'administration de Joe Biden a fermement rejeté les affirmations selon lesquelles le régime sioniste commettrait un génocide dans la bande de Gaza. Cependant, elle a également reconnu n'avoir mené aucune évaluation ni enquête officielle pour déterminer si le régime sioniste violait ou non le droit humanitaire international dans le cadre de la guerre à Gaza. Selon Politico, cette question a suscité de nombreuses critiques à l'encontre du gouvernement Biden, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des États-Unis. D'autant plus que ce gouvernement ne semble guère enclin à changer son approche sur la guerre à Gaza. Les discussions et les débats se multiplient et la clameur devient de plus en plus insistante sur les actions génocidaires du régime sioniste dans la bande de Gaza. Cette exaspération est largement influencée par la récente décision du gouvernement sud-africain d'avoir déposé une plainte contre le régime sioniste devant la Cour internationale de justice en raison du crime du génocide dans la bande de Gaza. Or, à en croire un responsable de l'équipe de sécurité nationale du gouvernement Biden, si vous regardez les actions d'Israël au milieu de la guerre à Gaza, vous constaterez qu'Israël ne cible pas systématiquement les civils. Joe Biden n'a toujours pas réagi à ces remarques sur sa politique israélienne. Tout au plus, c'est le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, qui insiste sur le droit de chacun à la liberté d'expression. Mercredi dernier, Matthew Miller, porte-parole du département d'État américain, a déclaré que les États-Unis n'avaient vu aucun signe de génocide de la part d'Israël à Gaza. Miller s'est refusé à expliquer comment l'administration Biden est arrivée à cette conclusion. John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, a également déclaré qu'il n'avait connaissance d'aucune évaluation officielle analysant la conformité du comportement d'Israël avec les lois internationales. Des positions du genre ont fait augmenter considérablement les critiques à l'égard de la politique israélienne du gouvernement Biden. D'après des révélations de New York Times, 500 responsables politiques et des membres du personnel du département d'État, de la Maison-Blanche, du Conseil de sécurité nationale et du ministère de la Justice ont écrit au président américain. Ils exigeaient déjà un cessez-le-feu immédiat et exhortaient Biden à mettre fin à l'effusion de sang causée par la campagne militaire menée par Israël à Gaza. Dans ce contexte, les responsables du gouvernement Biden ont également adopté une position limitée concernant l'objectif du gouvernement de Benjamin Netanyahou d'expulser les habitants de la bande de Gaza de leurs terres. Netanyahou a récemment annoncé les consultations avec le Congo et un certain nombre d'autres pays pour qu'ils accueillent les habitants de la bande de Gaza. Notre problème est de trouver des pays disposés à accueillir la population de Gaza. Nous travaillons sur cette question, a-t-il déclaré. Entre-temps, de nombreux analystes estiment que l'administration Biden ne pouvait pas donner un chèque en blanc à un gouvernement extrémiste dans les territoires occupés pour qu'il poursuive ses actions criminelles. Un gouvernement qui a fait preuve d'un mépris total pour la vie du peuple palestinien.